RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de Pensée, une émission consacrée à la lecture des textes de philosophie, à leur interprétation, à leur méditation, une émission pour se radicaliser. Alors, cher Nicolas, est-ce que tu peux nous faire le résumé de l'émission précédente? Qu'est-ce qu'il a été dit la semaine dernière?
Alors, je ne serai pas... tout à fait complet, mais je pense que le point le plus important, c'était la discussion qui a suivi la lecture sur l'image de ce monde créé du chaos et qui ensuite est régi par les lois universelles et invariables. Donc Descartes pose ce qui est toujours l'un des principes de la physique moderne, à savoir que les lois qui régissent le monde matériel sont invariantes par qu'elles sont valables en tout lieu, en tout temps et dans quelque direction qu'on se tourne. Mmh. Et ensuite, donc, nous avions terminé par un texte sur la possibilité d'imiter un animal, sur l'impossibilité d'imiter à l'aide d'une machine un homme.
Et donc, très bien. Donc, on va continuer donc à se radicaliser. Donc radicaliser, hein, c'est radix, hein, c'est remonter à la racine. Hein, et donc il y a quelque chose de tout à fait radical dans la pensée de Descartes. Et la question que nous allons nous poser, c'est effectivement en quoi, d'une certaine façon, Descartes préfigure le règne des ordinateurs, ou plus particulièrement de la science, ou de la technoscience, comme il faudrait l'appeler, en quoi... Ce discours de la méthode annonce des problèmes tout à fait actuels, comme ceux qui touchent à l'intelligence artificielle. Et nous avions esquissé dans la dernière émission le fait que certains aspects de la pensée mécanique du corps préfiguraient cette maîtrise de l'être humain qui allait lui-même être peut-être devenir le créateur de choses artificielles et ainsi de suite. Alors, Nicolas, tu veux peut-être nous relire ce passage qui avait attiré notre attention ?
Et je m'étais ici particulièrement arrêté à faire voir que s'il y avait de telles machines qui eussent les organes et la figure d'un singe ou de quelque autre animal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnaître qu'elles ne seraient pas en tout de même nature que ces animaux, au lieu que s'il y en avait qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos actions que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela de vrais hommes, dont le premier est que jamais elles ne pourraient user de paroles ni d'autres signes en les composant, comme nous faisions pour déclarer aux autres nos pensées. Alors ça c'est quelque chose effectivement qui renvoie à une question moderne, c'est... est-il possible d'imaginer une machine, c'est un problème posé par Turing, tel qu'on ne puisse pas distinguer d'un homme?
Alors, peut-être on peut rappeler quelques faits de contexte à propos d'Alan Turing. Donc Alan Turing, c'est un savant qui est un mathématicien ou un logicien britannique, né en 1912. On a fêté il y a quelques temps son centenaire, notamment il y a eu plusieurs films qui ont été faits, dont un film hollywoodien qui contient beaucoup de choses fausses que je n'ai pas vues et que j'ai trop peur d'être déçu, mais j'ai entendu dire beaucoup de choses à ce propos. Et c'est peut-être pas le meilleur moyen d'aborder l'œuvre d'Alan Turing. Et donc, effectivement, Alan Turing a conçu mathématiquement les principes qui permettent aujourd'hui de construire n'importe quel ordinateur, finalement. N'importe quel ordinateur, aujourd'hui, est une réification. Alors, j'utilise un terme savant. Hein. Réification signifie une réalisation matérielle d'un théorème qui a été inventé par Turing. Alors, peut-être, Sylvain, tu veux nous dire quelques mots précisés. Quelles sont les idées qui sont au centre de ces théories, de ces théorèmes qui ont été... trouvé par Alan Turing?
Oui. Alors, pour faire simple, en fait, l'idée
qui est sous-jacente là, hein, développée par Turing, et qui est justement d'ailleurs en contradiction avec Descartes. Enfin, Descartes ne pouvait pas imaginer ça, en fait. C'est qu'on peut créer, finalement, il peut définir une machine qui va pouvoir exécuter n'importe quelle suite d'actions, n'importe quelle tâche, en fait. En décomposant, bien sûr, par une suite simple de... Enfin, une suite qui peut être longue, mais d'actions simples, on peut arriver comme ça à réaliser, à résoudre des problèmes. En fait, c'est exactement le même principe qu'une recette de cuisine. Quand on fait une recette de cuisine, ben, on suit les différentes directives pour réaliser un gâteau, par exemple. C'est un algorithme, ce qu'on appelle un algorithme.
Alors, je peux te poser une question ?
Oui.
Ou tu veux terminer ton explication ?
Je voulais juste terminer par la différence fondamentale entre Descartes et Turing, justement, à ce niveau-là. C'est qu'à l'époque de Descartes, il y avait des gens qui construisaient des automates. Hein, on peut en voir parfois dans certains musées, d'ailleurs, des automates très bien faits, hein, très jolis, qui imitaient un petit peu, ben, par exemple, des gens qui jouaient de la musique ou des choses comme ça. Et dans l'esprit de Descartes, ce qui ressort, c'est que, effectivement, on peut arriver à reconstruire un corps humain, mais par contre, il serait trop compliqué d'arriver à mimer, en fait, le raisonnement humain. Et donc à pouvoir réagir, à pouvoir faire des automates qui puissent réagir dans n'importe quelle situation. Parce que le problème, évidemment, des automates de l'époque, c'est qu'ils ne faisaient qu'une tâche. Ils étaient répétitifs, ils ne pouvaient faire qu'une tâche, voire peut-être deux. Mais enfin, globalement, c'était très limité. C'était des machines qui ne faisaient qu'une seule chose. Alors que la grande différence fondamentale avec Turing, c'est que justement, Turing montre qu'il peut y avoir des machines qui peuvent faire plein de choses différentes.
Est-ce que, en quelque sorte, tu réfutes le deuxième argument que donne Descartes et que je n'ai pas lu, et donc il dit,
oui, tu peux,
et le second, et que bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien, donc elles fissent, ce sont les machines qui sont censées imiter l'homme, et bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Car au lieu que la raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin de quelques particulières dispositions pour chacune action particulière. D'où il vient qu'il est moralement impossible qu'il y en ait assez de divers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie, de même façon que notre raison nous fait agir.
Exactement, c'est exactement ce problème-là.
Alors ce que tu nous dis, Nicolas, ici, c'est que le second argument que donne Descartes, c'est finalement... Les machines sont trop spécialisées, hein, c'est ça. Et leur spécialité, c'est aussi leur faille. Elles ne manqueraient infailliblement en quelque autre donc, tâche qui leur serait confiée.
Elles ne peuvent faire qu'une seule chose, ou même un ensemble fini de choses, quelque chose. Quoi. Ça peut être 5, 10, mais c'est toujours limité.
D'accord.
Et le problème, ce que dit Descartes, c'est que si on voulait faire quelque chose qui puisse mimer le raisonnement humain, l'intelligence humaine, dans ce cas-là, il faudrait avoir une infinité d'automates internes, entre guillemets, pour pouvoir réaliser cette machine.
Alors,
c'est pour ça qu'il dit que c'est, encore une fois, moralement impossible. Mais... Théoriquement, ça serait possible, mais moralement impossible.
Sylvain,
enfin, physiquement impossible.
Finalement, est-ce que ce n'est pas là le projet même de l'intelligence artificielle ?
Ben si, quelque part, alors ça dépend, parce que l'intelligence artificielle, il y a toujours pareil, il y a tout un tas de sous-domaines, mais... D'une certaine façon, ce que l'on essaye de faire aux machines, c'est des tâches de plus en plus complexes. On a des machines...
Tu peux donner des exemples ?
Bah, par exemple, tout ce qui peut être lecture automatique de documents, bien sûr,
traduction automatique.
Aujourd'hui, on a même des systèmes pour faire de la conduite automatique, qui sont en train d'être mis au point. Hein, voilà.
Pour jouer
donc,
au go.
Il y a plein de systèmes aujourd'hui où on essaye de faire des tâches de plus en plus complexes, de faire à la machine des tâches de plus en plus complexes et donc de réagir aussi à des situations très, très variées, notamment en robotique aussi, hein, par exemple.
Mais finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on a réussi à créer une machine ? Alors, des machines qui parlent au sens proférer des sons, ça, on sait que ça existe. Des machines qui parlent au sens d'entendre des sons et les interpréter, on sait que ça existe. Ce n'est plus un défi majeur. Et d'ailleurs, Descartes dit que c'est tout à fait possible. Hein. Mais est-ce qu'on a réussi à faire des machines avec lesquelles on puisse converser ? Et comme le rappelait Nicolas, avec ce fameux test de Turing, alors on peut peut-être prendre 2 minutes, ça va un petit peu être difficile de parler de ce fameux jeu de limitation ou test de Turing, mais il s'agit simplement de distinguer un comportement d'imitation où au départ un examinateur a devant lui, sans les voir, un homme et une femme, l'homme doit tromper l'examinateur sur son identité d'homme et la femme doit aider l'examinateur sur son identité de femme. Et Turing dit, finalement, l'homme va jouer assez bien à imiter la femme. C'est pour ça que ça s'appelle le jeu de l'imitation. Est-ce qu'un jour, un ordinateur pourra comprendre cette différence des sexes et jouer lui aussi, non pas à être un être humain, mais à être un homme qui imite une femme? Ça, c'est une petite partie qu'on oublie souvent du test. On le donne. Je voudrais peut-être vous lire un extrait d'un recueil de lettres qui ont été adressées à Alan Turing. Alors, ce recueil de lettres est paru en 2016 aux éditions Thierry Marchès. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et il s'agit de lettres qui ont été écrites à Alan Turing. Et ce ne sont pas des lettres du temps d'Alan Turing, mais des gens de nos jours qui ont écrit. Et ces lettres ont été réunies par Jean-Marc Lévy-Leblon. Alors, dans la lettre qui a été écrite par Jean-Pierre Dupuis, donc, qui est un professeur de philosophie et puis aussi un scientifique, il dit « J'utilise le mot simulation en parlant du jeu et c'est ainsi que vous, informaticiens avant la lettre, auriez dû nommer votre jeu, de préférence au banal, imitation. Dans votre langue comme dans la mienne, le verbe simuler a désormais un double sens. » Alors, aujourd'hui, on a des simulations informatiques pour prédire l'état du monde. Est-ce que, Sylvain et Nicolas, vous pouvez nous dire deux mots sur l'omniprésence de la simulation informatique pour comprendre l'univers? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'éminemment cartésien?
Ah ben, oui, c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de choses en physique, mais là, pour le coup, Nicolas pourra peut-être en parler encore mieux que moi, hein, sont réalisées sur ordinateur, en simulation, pour pouvoir étudier les comportements. Tout ce qui est conception aussi d'objets complexes, hein, comme des avions, des choses comme ça, où il y a une sécurité importante qui est nécessaire, les avions, en fait, volent numériquement avant de voler en vrai, quoi. Donc, il faut que ça soit testé, que ça marche, évidemment, que ça soit... Voilà. Un exemple aussi très simple de la vie courante, c'est évidemment les calculs de météo, hein. Toutes les prévisions météo sont calculées par ordinateur, avec des ordinateurs très rapides, enfin très puissants, etc.
Pour penser à l'économie aussi.
Qui sont des systèmes très complexes.
L'économie, bien sûr, sur des modèles mathématiques.
Oui, mais l'économie était cartésienne.
C'est partout. Voilà, exactement. Mais on arrive à ce point dont on a déjà discuté, qui est finalement, partant de la méthode cartésienne, qui a un but vraiment de connaissance, de vérité, d'évidence, de clarté, on arrive à des terrains qui ne sont plus du tout ceux de la clarté. C'est-à-dire, on utilise les mathématiques, les calculs. Par exemple, les statistiques sont utilisées aussi pour manipuler, en quelque sorte, pour faire passer telle ou telle mesure économique, alors qu'on est bien, bien loin de la clarté, à mon avis.
C'est sûr. Il y a même des systèmes, des simulations où on arrive à retrouver des comportements donc globaux, mais par contre on a même du mal à expliquer ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Donc au final on retrouve parfois une complexité dans les simulations numériques qu'on a dans le monde physique classique, quoi.
C'est-à-dire les simulations numériques, c'est un petit peu l'homme qui est quelque part obligé de passer le relais à la machine, puisque la physique, c'est pas uniquement la conception, le fait de trouver des principes, les grands principes, mais une fois qu'on a les grands principes, et ben ensuite il faut les déduire pour les appliquer à des systèmes réels. Et les systèmes réels, comme tu l'as dit, peuvent être extrêmement complexes. Et les capacités cognitives de l'homme étant finies, il est difficile de déployer tous ces principes dans des systèmes complexes et particuliers. Et on est obligé de rentrer donc ces équations qu'on maîtrise dans des ordinateurs. Et c'est un petit peu la rupture qui est en train de se produire, à mon avis, c'est que finalement, on délègue aux ordinateurs le fait de simuler, et le tout, c'est d'arriver à une maîtrise, et uniquement à une maîtrise, mais en renonçant quelque part à comprendre.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on oublie même que les lois elles-mêmes, au début, on faisait ça en connaissant les lois de la physique. Or, aujourd'hui, avec ces systèmes qui sont capables d'apprendre comme un être humain, avec ces réseaux de neurones, etc., par exemple, quand Google fait une voiture intelligente, tout ça, finalement, la voiture n'a même plus besoin de connaître les lois de la physique. Elle a besoin, par un apprentissage, par une série d'essais-erreurs, de simplement savoir par des entrées et des sorties, le modèle input-output, répondre à des situations.
Et donc, des modèles de type ingénieur.
Exactement, des modèles d'ingénieur où même les lois de la physique ne sont même plus entrées en tant que telles. Et ça, ça nous questionne vraiment sur notre temps, comment marchent tous ces objets qui nous entourent.
Et pour revenir à Descartes, justement, c'est là qu'on voit justement la rupture entre Descartes et Turing, pour le coup. Parce que Descartes était convaincu que la matière ne pouvait pas penser. Donc, juste pour étayer le, enfin pour montrer ce point qui est important, un petit passage à la fin de la cinquième partie où Descartes dit « J'avais décrit, après cela, l'âme raisonnable et fait voir qu'elle ne peut aucunement être tirée de la puissance de la matière, ainsi que les autres choses dont j'avais parlé, mais qu'elle doit expressément être créée. » Donc là, on voit que quelque part, si Descartes venait aujourd'hui, je pense qu'il serait très surpris de voir les ordinateurs et ces choses-là. Enfin, je suppose. Parce que quand même, pour lui, matériellement, c'est pas possible d'imaginer que la pensée puisse être uniquement matérielle, quoi.
Oui.
C'est-à-dire, on peut pas encore dire que les ordinateurs pensent.
Ça, je sais pas. Moi, je sais
en
pas.
Tout cas, Descartes,
je dis ni oui ni non.
Pardon, Descartes,
je pas, y a, okay, effectivement, il n'y a pas de preuve là-dessus.
Il n'y a pas de preuve là-dessus, mais Turing, clairement, dit, au fond, l'objection de l'âme, je la rejette, je ne sais pas ce que c'est que l'âme, et il n'y a aucune raison de penser que les machines, puisqu'elles vont être capables de faire des progrès par elles-mêmes, d'apprendre, d'interagir, il n'y a aucune raison de penser qu'elles n'arrivent pas au même degré d'intelligence que l'être
et
humain.
Le summum, et c'est la conscience, c'est surtout. C'est
oui. Et donc, quand on voit un bébé, par exemple, qui apprend, qui petit à petit expérimente sur le monde jusqu'à l'âge de 2 ans, savoir se reconnaître dans un miroir, etc., au fond, la question que posent les gens qui s'intéressent à la question de l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qui empêcherait une machine qui
de faire pareil.
Alors, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui répondre de manière claire à ça. En revanche, nous, qui sommes des radicaux, qui nous radicalisons, nous revenons à la source et nous voyons d'où ce mouvement-là, ce mouvement du 21e siècle, tire sa force et son origine. Et par rapport à l'exigence de maîtrise qui a été soulignée par Nicolas, je voudrais avant la petite pause musicale vous lire, que nous lisions ensemble, le passage qui est sans doute le plus important de cette sixième partie du discours de la méthode. Lorsque Descartes va parler de sa connaissance qu'il va établir des lois de la nature et du bien qu'on en peut entendre, il dit « Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » Alors voilà, on va faire une petite pause musicale et nous reviendrons sur l'interprétation de cette phrase. Voilà, alors cette exigence de maîtrise, il faut dire que chez Descartes, c'est d'abord un mouvement charitable, puisque ensuite il nous dit tout ce qu'on peut en attendre des commodités, et il nous dit et qu'on pourrait on se pourrait exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, peut-être même de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de connaissances de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature est. Donc la médecine, l'allongement du temps de vie, c'est quelque chose qui est explicitement écrit dans le discours de la méthode. Et donc, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est d'abord un mouvement charitable pour l'être humain. Or, aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est totalement le contraire. C'est un mouvement furieux où les États, les organisations supra-étatiques ou infra-étatiques se livrent à une bataille sans merci pour maîtriser la nature, que ce soit maîtriser les ressources naturelles.
Mais là, pour le coup, c'est à des fins souvent économiques, donc c'est plus le... le problème de l'organisation de la communauté humaine, donc l'économie qui pose problème que la méthode de Descartes.
Ce sont des enjeux humains et des enjeux de pouvoir, quoi.
C'est des enjeux de pouvoir.
Se rendre maître et possesseur de la nature pour se rendre maître et possesseur d'autrui.
Exactement. Et c'est là où on avait pu parler d'un certain échec du mouvement philosophique, c'est que finalement il y a quelque chose de lumineux, qu'on peut dire de progressiste, de quelque chose qui vise à la libération de l'homme, et qui, de fil en aiguille, est totalement
perverti,
dévoyé, et arrive à une guerre furieuse entre les êtres humains pour savoir qui aura le plus de maîtrise. On peut le voir jusqu'à aujourd'hui avec la maîtrise du nucléaire, inutile de parler de problèmes de Corée du Nord, de l'Iran, de ceci, cela. On peut le voir pour la maîtrise des ressources naturelles,
la maîtrise de l'énergie,
le ravage de la forêt amazonienne, et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose de profondément cartésien dans les problèmes de notre temps, et c'est pour ça qu'on s'appelle les neveux de René. C'est non pas pour jeter la pierre à René, mais essayer de comprendre d'où vient le mouvement qui caractérise notre temps.
D'ailleurs, pour revenir justement sur la méthode, c'est intéressant de voir quelle est la puissance de cette méthode et l'importance pour notre société actuelle dans les connaissances scientifiques.
Ah oui.
Puisque justement, elle a donné lieu à des choses, elle a permis des réalisations que Descartes lui-même n'imaginait même pas.
Complètement.
Dont notamment ces histoires de comportements complexes à partir de machines matérielles, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir.
Et je pense que pour terminer notre cycle sur Descartes, on pourrait lire deux textes alors qui sont assez difficiles à entendre, et je pense que l'auditeur aura besoin de les relire, mais bon, on les commentera ensuite. C'est rappeler donc, conclure sur l'œuvre de Descartes, le discours de la méthode, comme étant le fondement métaphysique de toute la science moderne. Alors, premier texte, donc, qui se trouve dans la sixième partie du discours. « Premièrement, j'ai tâché de trouver en général les principes ou premières causes de tout ce qui est ou qui peut être dans le monde, sans considérer pour cet effet que Dieu seul qui l'a créé, ni est tiré d'ailleurs que de certaines semences de vérité qui sont naturellement en nos âmes. » Et puis deuxième extrait que je vais lire tout de suite.
Non, tu peux relire au moins la fin de la phrase, s'il te plaît.
La dernière phrase. Mm. Ni de les tirer d'ailleurs que de certaines semences de vérité qui sont naturellement en nos âmes.
D'accord. Donc Descartes dit qu'il y a des semences de vérité.
Hein,
et ces semences, elles viennent donc de l'extérieur.
Évidemment.
Voilà.
Oui. Et puis, deuxième passage, « Mais il faut aussi que j'avoue que la puissance de la nature est si ample et si vaste et que ses principes sont si simples et si généraux que je ne remarque quasi plus aucun effet particulier, que d'abord je ne connaisse qu'il peut en être déduit de plusieurs diverses façons et que ma plus grande difficulté est d'ordinaire de trouver en laquelle de ces façons il en dépend. » Et car à cela, je ne sais point d'autre expédient que de chercher re-de-chef quelque expérience qui soit telle que leur événement ne soit pas le même, si c'est l'une de ces façons qu'on doit l'expliquer ou si c'est en l'autre. Et donc là, on retrouve à peu près, donc, ajouté bien sûr à ce que nous avons vu dans les émissions précédentes, ce socle métaphysique de la science moderne. La première chose, c'est que le monde est rationnel. C'est-à-dire que le monde matériel est régi par les lois d'un Dieu qui est éternel, constant, et qui assure donc l'immuabilité de ses lois. Et ça, ça implique un refus radical de toute causalité magique. Il n'y a pas d'arbitraire dans la façon dont le monde se comporte. Et en termes de causalité magique, on peut penser que... Le XVIIe siècle arrive en réaction à ce qui s'est passé au XVIe, on comprenant toujours comme étant le siècle de la Renaissance, le renouveau des arts, le renouveau de la pensée, etc., mais qui fut surtout un siècle d'obscurantisme, avec notamment tous les procès en sorcellerie. On a brûlé plus de sorcières en 50 ans, entre 1650 et 1700, que pendant tout le Moyen-Âge. Et je pense que ce refus de la causalité magique, il n'est pas sans lien avec cet épisode tragique qu'a été donc cette crise spirituelle de l'Occident au XVIe siècle. Et puis, première chose, donc, refus de la causalité magique et le fait que les lois de la physique sont partout les mêmes, en tout temps et de quelques directions qu'on se tourne. Deuxième chose, c'est que l'homme possède en lui-même, et ça c'est une idée qui vient aussi du christianisme, c'est l'idée que l'homme possède en lui-même des lumières naturelles. Et que ces lumières naturelles, il peut s'en servir, donc qui lui ont été données par Dieu, il peut s'en servir pour accéder à une forme de vérité par lui-même. Et donc que cette recherche de la compréhension de ce monde rationnel lui est donnée, lui est accessible. Et puis, la dernière chose, c'est la méthode expérimentale. C'est-à-dire que pour dégager ces principes, pour dégager des explications, eh bien, on ne doit pas se contenter d'une spéculation sans fin qui serait purement métaphysique, ce qui était le cas encore, par contre, qui était le cas dans la scolastique et auparavant, il y a ce rapport à l'expérience. C'est-à-dire que si on a deux théories pour expliquer quelque chose, eh bien, il faut imaginer un protocole expérimental qui puisse donner des résultats différents si une explication est valable ou si l'autre est valable.
C'est ce qu'il dit quand il dit « Je ne sais point d'autre expédient que de chercher de rechef quelque expérience qui soit telle que leur événement ne soit pas le même, si c'est en l'une ces façons que l'on doit expliquer, que si c'est en l'autre. » Voilà, donc c'est l'idée d'expérience décisive, quoi. On s'oppose, toi et moi, on va faire une expérience et cette expérience doit nous départager.
Et on doit concevoir cette expérience de telle sorte à ce que son résultat puisse discriminer entre deux explications concurrentes. Et ça, c'est vraiment toute la méthode expérimentale telle qu'elle est toujours employée de nos jours dans les laboratoires de recherche.
Donc en fait, aujourd'hui, si on maîtrise l'énergie, le nucléaire, les OGM, tout ça, c'est par l'application de cette chose-là.
C'est grâce à René.
et pour terminer, plutôt que d'arriver au 16e siècle, au 21e siècle, le période des regrets, des désillusions, j'aimerais terminer par un texte beaucoup plus euphorique, qui date du 19e siècle, où les neveux de René étaient en pleine conquête de ses pouvoirs, et avec l'idée qu'on allait pouvoir effectivement améliorer le monde et les conditions de vie. Et donc, ce texte est un hommage à René Descartes, et puis à quelques autres. Les premières lueurs de l'émancipation politique commençaient à se lever sur les nations de l'Europe. Une transformation semblable ne tarda pas à s'opérer dans les sciences et compléta la révolution salutaire qui devait mettre l'humanité en possession de ses droits. C'est alors qu'apparaissent à la fois sur la scène du monde trois hommes destinés à jeter les bases de l'édifice nouveau des connaissances humaines. Bacon en Angleterre, Descartes en France et Galilée en Italie. Ce sont les auteurs de cette révolution mémorable. Divers de pays, d'esprit et de caractère, ils attaquent selon les formes et les aptitudes particulières de leur génie l'échafaudage antique des doctrines scolastiques qui asservissaient l'esprit humain. Leurs hardis et salutaires efforts le renversent à jamais et élèvent sur les débris une philosophie nouvelle. Donnant le précepte et l'exemple, ils enseignent au monde la véritable méthode à suivre dans les recherches scientifiques et marquent par leurs découvertes les premiers pas de la science naissante.
Voilà, alors ça c'est intéressant, donc Bacon, Descartes et Galilée comme les révolutionnaires qui sont portés au pinacle par le 18e siècle, le 19e siècle, hein, pardon. Alors, moi je voudrais donc remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant cette série d'émissions qui sont consacrées à Descartes. Je voudrais lire un courrier des auditeurs et nous vous invitons à nous écrire à l'adresse philo donc philo @rcf.fr on a reçu ce mot de la part d'une auditrice qui est composée en quelques vers qui dit: il chemine dans les broussailles compactes, mais que cherche-t-il dans ce milieu opaque à défricher un chemin avec les outils de la pensée de ceux qui les ont précédés. Socrate les a sûrement aidés, Descartes on ne sait, car l'aventure a mal tourné. Voilà, alors on a fait ce point à expliquer que la philosophie d'abord a un émerveillement, des projets qui ont été réalisés pour le bien-être de l'homme. On voit que parfois ces projets sont dévoyés. Et donc nous vous proposons, chères auditrices, chers auditeurs, de retourner au temps où est née la philosophie. Nous avons été peut-être un peu trop expéditifs, un peu trop rapides sur la philosophie telle qu'elle a été expliquée par Platon et Socrate. Et nous vous proposons d'y retourner. Et afin de digérer Descartes, nous reviendrons bien sûr à notre temps, au XVIIe siècle et à tous les autres moments philosophiques de l'histoire. Sylvain, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ?
Non, bah je dis simplement pour dire qu'effectivement Descartes du coup a quand même bien réussi dans le sens où l'espérance de vie aujourd'hui est largement supérieure à celle de son temps.
Effectivement, c'est une des traces de réussite du programme cartésien. Merci, à la semaine prochaine.